بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحاب أجمعين. Dieu a dit dans le Coran, dans la sourate Al Imran, قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. La haine est apparue à travers leur bouche. La haine a été dévoilée par leur langue, mais ce que cache leur fort intérieur, ce que recèle leur cœur en termes de haine est pire encore. Ce n'est rien comparé à ce qu'il y a en eux par rapport à ce qu'on entend de leur bouche. Vous avez une émission qui a fait beaucoup de bruit, celle de Ce soir ou jamais, où on a ramené des gens qui se sont prononcés sur l'islam, et puis on a pu voir que certaines personnes avaient une haine virulente envers l'islam. On va pas dire envers les musulmans, puisque cette personne a fait une différence entre musulmanophobie et islamophobie. On va lui concéder qu'effectivement, elle n'avait pas la haine des musulmans. Mais de toute évidence, il y a une haine féroce. Une haine féroce qui est exprimée à travers ses propos. Cette pseudo-spécialiste de l'islam, ou cette spécialiste de la langue arabe, puisqu'elle l'a enseignée pendant plusieurs décennies, et qu'elle a même dit pendant 40 ans, elle a étudié les textes de l'islam, elle a dit que l'islam n'est aucunement une religion de paix, mais qu'elle est née à l'ombre des épées. Et puis elle a également dit que l'islam a appelé à la violence envers les femmes, et que l'islam indirectement appelé à la haine envers les juifs, beaucoup d'accusations. Et elle prétendait que c'était le résultat de 40 ans d'études objectives et scientifiques des sources de l'islam, des textes de l'islam. Alors on va lui dire à cette dame, as-tu entendu le récit de Aïcha, l'épouse du prophète, le récit de la fin de la vie de son mari, de son cher mari, le prophète de l'islam, celui qui a effectivement appliqué l'islam à la lettre, celui qui était, comme l'a dit son épouse Aïcha, un Coran qui marche, un Coran vivant, c'est-à-dire que le prophète, effectivement, dans sa vie, c'est lui qui a appliqué le Coran de manière pratique. Autrement dit, si tu veux comprendre le Coran, ne me cite pas des versets que tu vas interpréter de ta propre tête, hein, ton analyse personnelle, passionnelle, subjective. Mais comprends les textes de l'islam à travers la vie du prophète, parce que c'est lui qui a pratiqué l'islam comme il se devait. Alors, peut-être que cette partie de la vie du prophète a échappé à Anne-Marie Delcombre, peut-être. Enfin, ça m'étonnerait. Aïcha rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de sa vie, il fut atteint d'une maladie, hein, d'un grave mal de tête. Il a beaucoup souffert, hein, d'une forte fièvre douloureuse qui va conduire à sa mort. Qu'est-ce qu'il a fait, le prophète? Bien qu'il était souffrant, il a insisté pour prononcer un dernier discours à sa communauté. Et deux de ses compagnons l'ont transporté, l'ont amené sur le minbar, sur sa chair. Et il va prononcer son discours d'adieu. Imaginez-vous, le prophète sait que il ne lui reste que quelques heures, que quelques jours, au mieux. Et donc, ce qu'il va dire est extrêmement important. Ce sont ses dernières recommandations à sa communauté. Que va-t-il dire? Parmi les choses qu'il va dire, il va dire « Ô gens, ô vous qui m'écoutez, qui êtes présents aujourd'hui, mais ô vous, communauté qui viendra plus tard, je vous recommande la bonne conduite envers les femmes. Je vous recommande d'être juste envers elles. Ne leur faites pas injustice. Usikum bin nisa'i khayra. Je vous recommande la bonté, le bon comportement envers les femmes, envers vos mères, envers vos filles, envers vos épouses, envers vos tantes, envers toutes les femmes. Mais vous savez, ce qui est magnifique chez le prophète, ce qui est digne d'admiration, c'est que il ne se suffit pas de prononcer des belles paroles, mais il les met en pratique. Et aussitôt descendu de la chair, il va mettre en pratique sa recommandation d'être bienfaisant envers les femmes. Envers deux femmes en particulier, son épouse Aïcha et sa fille Fatima. Alors qu'il était dans sa chambre, mourant, Fatima est entrée voir son père. Et comme elle avait l'habitude de voir son père l'accueillir à bras ouverts, l'embrassant sur le front entre ses deux yeux, comme elle avait cette habitude, et que, à ce moment, le prophète était allongé souffrant, qui ne pouvait pas se lever pour l'accueillir, elle a pleuré. Et le prophète lui a dit, viens à mes côtés, ma fille, je vais te dire quelque chose, te murmurer quelque chose à l'oreille. Et il va lui dire quelque chose que personne n'a entendu. Et elle va pleurer encore plus. Et ensuite, le prophète va lui dire, viens, j'ai encore autre chose à te dire. Et après lui avoir dit ce secret, elle va cette fois-ci avoir un sourire. Et les gens autour vont lui dire, Ya Fatima, qu'est-ce qui s'est passé? Elle va dire, c'est un secret entre moi et mon père. Mais après la mort de son père, paix et bénédiction sur lui, elle va nous révéler. Elle va dire, quand le prophète m'a murmuré la première fois une chose à l'oreille, il m'a dit, ce soir, je vais mourir. Et j'ai pleuré. Et ensuite, il m'a dit, dans l'autre oreille, quand il m'a vu dans cet état de tristesse, il m'a dit pour me consoler, tu seras la première à me rejoindre. Et dans une version, n'es-tu pas satisfaite? Ne serais-tu pas réjouie si je t'annonçais que tu seras la princesse des femmes au paradis, la meilleure des femmes au paradis, ou la meilleure des femmes sur terre? Et là, j'ai souri, parce qu'il m'a annoncé une bonne nouvelle. J'ai souri. Regardez comment, après avoir demandé aux gens de bien se comporter envers les femmes, comment il a tout de suite appliqué cette recommandation. Mais ce n'est pas fini. Vous savez qui nous rapporte les derniers instants de la vie du prophète, les derniers souffles? C'est son épouse Aïcha. Aïcha dit, le prophète a demandé à ce qu'il se fasse soigner dans ma chambre. On l'a donc apporté auprès de moi et il a posé sa tête sur ma jambe. Et quand mon frère Abdurrahman est entré, il avait dans sa bouche un siwak. Donc cette petite branche d'arbre en bois qui permet de nettoyer les dents à l'époque, qui faisait office de brosse à dents aujourd'hui. Quand le prophète a vu ce siwak, il l'a observé, il l'a fixé des yeux, et sa femme a compris qu'il voulait se brosser les dents avant de décéder. Et elle a donc pris ce siwak, et elle l'a mâché avec ses dents, et elle l'a ramolli avec sa salive, et le prophète s'est brossé les dents, afin de rencontrer son Seigneur avec une haleine pure. Et il a levé la main au ciel, pointant l'index vers le haut. Et Aïcha dit, je l'ai entendu dire, je choisis le ciel, ou je choisis de rencontrer mon Seigneur. Et elle a dit, j'ai compris qu'à ce moment, l'ange de la mort lui donnait le choix entre vivre encore un moment sur terre ou rejoindre son Seigneur, car les prophètes ont leur donné le choix de mourir tout de suite ou que leur vie soit prolongée. Et il a dit, je préfère rejoindre mon Seigneur. Et ensuite, sa main est tombée et son cœur s'est apesanti, s'est alourdi. Et j'ai compris que son âme l'avait quitté. Et elle a dit, c'est une grâce de Dieu, c'est un grand honneur, c'est un privilège que la dernière chose qui soit entrée dans la bouche du prophète, c'est ma salive. Et en disant ça, elle nous rappelle certains de ses propos quand elle nous décrivait les jeux séductifs du prophète envers son épouse Aïcha. Lorsque Aïcha disait, il m'arrivait de boire dans un verre et le prophète buvait après moi, et il posait ses lèvres exactement là où j'avais posé mes lèvres. Ou quand on mangeait de la viande et qu'il y avait un os, lorsque je suçais cet os, le prophète le prenait derrière moi et le suçait également. Et donc là, elle dit, c'est un privilège, c'est un honneur, c'est un signe d'amour. De quoi que ma salive soit la dernière chose qui ait pénétré son cœur avant qu'il ne décède. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé sa mission dans les bras de son épouse Khadija. Souvenez-vous, quand il a reçu la révélation dans la grotte et qu'il est descendu apeuré parce que c'était quelque chose d'extraordinaire et qu'il est allé se réfugier dans sa maison, il est allé dans les bras de son épouse Khadija qui va décéder plus tard. Donc il commence sa mission dans les bras d'une femme et il termine sa mission dans les bras d'une femme, Aïcha. C'est symbolique. C'est-à-dire que sa vie est une histoire d'amour. Sa vie, c'est d'abord le bon comportement chez lui, dans son intimité avec ses épouses. Donc, est-ce que cet épisode de la vie du prophète, qui est rapporté dans des traditions authentiques, dont on ne peut pas douter de leur authenticité, est-ce que cette pseudo-spécialiste de l'islam n'a pas lu ce texte? Et qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il signifie à ses yeux? Que le prophète détestait les femmes? Que le prophète avait une haine à appeler les gens à la haine envers les femmes? À les frapper, à les violenter? C'est un mensonge. Les textes sont là pour parler. Maintenant, elle a prétendu qu'en islam, on avait une haine envers les juifs. Vous avez encore Aïcha qui nous dit. Le prophète a dit avant de mourir, j'ai tant souffert du poison qui a été mis dans la viande qui m'a été offerte à Khaybar. Et aujourd'hui, j'en ressens encore la douleur. Et dans une version, et c'est ça qui va me conduire à ma mort. Mais c'est discutable. Mais ce qui nous intéresse, c'est que qui est cette personne qui a mis du poison dans un plat de viande offert au prophète et à ses compagnons? C'est une femme juive. Une femme juive. Non seulement le fait que le prophète ait accepté le plat de viande veut dire que le prophète n'a aucune animosité envers les juifs, la preuve, il a accepté un repas offert par une juive, mais en plus, cette viande a été empoisonnée pour tuer le prophète. Regardez, alors qu'il dit à la fin de sa vie, « Je ressens encore les douleurs du poison. » Il est à la fin de sa vie. Pourtant, il n'a pas appelé à la fin de sa vie à avoir une haine envers les femmes, puisque c'est une femme finalement qui lui a mis du poison, ou une haine envers les juifs, puisque une femme juive a essayé de le tuer en empoisonnant la viande. Est-ce qu'il a fait appel à ça? Pas du tout. Au contraire, regardez la vie du prophète et vous verrez que à chaque fois qu'il était en contact avec les juifs, il a fait preuve d'un bon comportement. Souvenez-vous, lorsque l'un de ses serviteurs qui était juif, qui le servait, qui était à son service, et fut atteint d'une maladie, il est parti lui rendre visite. Il est parti s'enquérir de son état de santé. Et il lui a dit, son père était présent, le père cet enfant juif. Il a dit à cet enfant juif, il lui a dit, crois en Dieu et en ma prophétie. L'enfant a regardé son père et le père a dit, obéis à Abul Qasim, obéis au prophète. C'est-à-dire, suis la vérité, embrasse sa religion et il va se convertir à l'islam. Et le prophète va sortir de là en frappant sa cuisse et en disant « Dieu merci, il a été sauvé ». Alors même qu'ils allaient engager une bataille contre les juifs qui avaient trahi le pacte qui existait entre les citoyens de Médine, qu'en cas d'agression extérieure, les juifs, les chrétiens, les musulmans devaient être ensemble contre leur ennemi, les juifs ont trahi ce pacte, ils se sont coalisés avec les polythéistes de la Mecque qui étaient venus faire un siège autour de Médine, donc il y a eu haute trahison, et ensuite ils se sont sauvés quand la bataille a tourné en faveur des musulmans, le prophète est parti pour s'en prendre à eux, puisqu'ils avaient trahi. Et ils étaient presque à l'origine de quoi? D'un massacre à Médine. Qu'est-ce qu'il a dit à Ali ibn Abi Talib, son gendre et son neveu, alors qu'il était sur son cheval de bataille et qu'il était devenu le chef de l'armée, qu'il allait combattre les juifs qui s'étaient réfugiés dans une forteresse. Il a dit à Ali, alors qu'il avait commencé la marche de l'armée, il lui a dit, oh Ali, attends un peu, écoute. Regardez ce qu'il va lui dire. Il va lui dire, et sache que si l'une de ces personnes que tu vas combattre, qui sont nos ennemis, tu pouvais l'inviter à l'islam et qu'il embrasse l'islam grâce à toi, alors sache que ça vaut mieux pour toi que tout l'or du monde. Autrement dit, je t'envoie faire la guerre, mais c'est un cas de nécessité. C'est parce que nous sommes dans une situation conflictuelle qu'on doit se protéger, c'est une légitime défense. Mais notre premier désir, ce qui anime nos cœurs, ce n'est pas de faire la guerre, mais c'est d'inviter les gens à la vérité. Autrement dit, si tu es capable, au lieu de tuer une personne, de tuer ton ennemi, de l'inviter à la paix de l'islam, alors fais-le. Et je vous passe des textes et des passages de la vie du prophète qui nous prouvent qu'il n'y a aucune haine de l'islam envers les juifs. Mais il y a tout simplement en islam un combat contre l'injustice. Peu importe qui est l'agresseur, qu'il soit juif, chrétien ou même musulman, si quelqu'un t'agresse, tu as le droit de te défendre. Mais il se trouve qu'à l'époque du prophète, il y a eu beaucoup d'agressions de la part des juifs contre les musulmans. Et ils se sont défendus. Et on ne peut pas leur reprocher de s'être défendu. C'est un droit de se défendre. Et souvenez-vous également, et je termine par ça, lorsqu'il y a eu un cortège funèbre et que le prophète s'est levé, et les compagnons lui ont dit « Pourquoi te lèves-tu » Donc en signe d'honneur ou comme signe de respect pour ce cortège funèbre, pour cette personne décédée. Ils lui ont dit, au prophète, ce n'est pas un croyant, ce n'est pas un musulman. Parce que c'était un cortège funèbre juif, c'est-à-dire que c'était un juif qui était décédé. Et le prophète s'est levé en signe de respect. Et il a dit, n'est-ce pas une âme humaine? Autrement dit, peu importe sa religion, ça reste une âme. Et donc je lui dois le respect. Le prophète lui-même s'est marié avec une juive, Safiya. Et il a pris sa défense à plusieurs reprises lorsque certaines personnes s'étaient moquées d'elle en lui disant « Ô fille de la juive !» Il lui a dit « Dis-leur, mon père, c'est-à-dire mon ascendant, était un juif, mon oncle était un juif, Moïse était un juif, son frère Haroun était un juif, et mon père et mon oncle étaient un prophète, et c'était des juifs, Moïse et Haroun. » Et mon mari est un prophète. Donc pourquoi est-ce que vous me traitez de juive? Il y a eu des prophètes juifs. Et le prophète le plus cité dans le Coran, c'est Moussa, Moïse. Est-ce que c'est le prophète Mohammed? Il est cité peut-être à 4 reprises par son nom. Mais le nom qui revient le plus, c'est l'histoire de Moïse, le prophète Moïse. Et quand un juif un jour, un musulman et un juif parlaient entre eux, et ils se sont disputés, et le musulman a dit « Je jure par le Dieu de Mohammed ». Et le juif a dit « Je jure par le Dieu de Moïse ». Et le musulman l'a frappé. Il lui a dit « Comment oses-tu dire le Dieu de Moïse alors que nous avons Mohammed comme prophète ?» Et le juif est parti se plaindre auprès du prophète. Et le prophète Mohammed a dit au musulman, il va lui reprocher ce qu'il a fait. Il va lui dire « Ne me mettez pas au-dessus du prophète Moïse ». Ne faites pas une différence entre moi et le prophète Moïse. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Mais ce que je veux vous dire, c'est que peu sont les gens qui apparaissent sur les plateaux télé et qui ont une approche objective de l'islam. Peu. Soit ils ont un problème dans leur intention, ils ont des préjugés, ils ont un présupposé, des clichés reçus, ou alors ils se trompent dans leur méthodologie quand ils approchent les textes de l'islam. Ils les détachent de leur contexte. Ils détachent les paroles du prophète, les paroles de Dieu, de la vie du prophète, parce que c'est lui qui les a mis en pratique. On ne peut comprendre les paroles de son prophète qu'à travers la vie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et loin de repousser les gens de l'islam, quand on dit ce genre de choses à la télé, on pousse les gens à la curiosité. Et des gens s'intéressent à l'islam, et parfois, quand ils tombent sur des personnes qui savent leur parler, alors ils se convertissent à l'islam. Et juste après la prière de l'Asr, alhamdoulillah, bonne nouvelle, une personne va annoncer sa conversion. Laurent de Marly, qui était là la semaine dernière, et il, inshallah, il va annoncer sa conversion juste après la prière de l'Asr. Sachez que, quand j'étais en prépa littéraire, mon prof d'histoire, un jour, il a photocopié la sourate Les Femmes, An-Nisa. Il a distribué une version, une copie de chaque, à chaque élève. Et elle est longue, la sourate An-Nisa, fait 30 pages. Donc à chaque élève, on avait 30 pages devant nous. Et pendant 2 heures, ou pendant 1 heure, il a interprété, il a fait le tafsir personnel, l'exégèse, des versets équivoques dans la, dans la sourate Les Femmes. Et ça me rappelle beaucoup hein, cette émission. Il a pris des versets qui parlent des femmes, des esclaves, etc. Il a commencé à quoi ? À verser son venin sur l'islam. Et à la fin du cours, une fille a dit, une élève, elle a dit « Monsieur, à vous entendre, on devrait détester l'islam. Mais autour de nous, on remarque, et on le remarque encore aujourd'hui, que de plus en plus de gens s'intéressent à l'islam, voire même se convertissent à l'islam. Comment ça se fait ?» Et le professeur a eu comme réponse « Parce que ces gens-là n'ont pas assisté à mon cours. S'ils avaient assisté à mon cours, eh ben je les aurais manipulés, je les aurais embrigadés. » اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والسداد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ارحم موتى المسلمين اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغيرا ألف بين قلوبنا انصر الإسلام والمسلمين اجعلنا من الذين يحافظون على صلواتهم اللهم اجعلنا من الذين يحسنون المعاملة مع النساء اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. J'ai oublié quelque chose, اسمحوا لي. Le 22 décembre, nous avons une intervention, une conférence ici même à la mosquée. On le rappellera inshallah par la suite. Il y a des gâteaux et du thé et du café qui est proposé, qui est vendu pour l'association Agir. Hein, c'est une association qui crée des activités pour les enfants, donc vous êtes invités à participer. Et pour, à l'occasion de ce 22 décembre, ceux qui veulent participer financièrement à la soirée, puisqu'il y aura un repas, ils sont les bienvenus. Aqimi s-salah.